Avant de continuer sur notre deuxième intervention, j'aimerais nous inviter à ouvrir le livret général, aux pages 10 et 11. Les pages 10 et 11, et particulièrement attirer notre attention sur la page 11. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il s'agit de l'introduction aux différentes interventions sur Jean. À la page 11, et vous avez un espèce de petit schéma en haut de la page. Je me suis battu avec ce texte de Jean 13 à 17, dans le sens métaphorique. Je me suis battu avec ce texte, en tout cas les chapitres 13 à 17, et en particulier avec le texte grec. Et lors de mes réflexions, lors de mon combat, je suis arrivé à la conclusion. En tout cas, j'étais trop content de moi, mais en fait, voilà. En fait, j'étais trop content de moi parce que je pensais que j'avais découvert donc une structure concentrique, la structure concentrique que vous avez en haut de la page, de type A, B, C, B prime, A. Une structure concentrique où vous voyez dans la partie A, donc qui correspond au chapitre 13, va répondre au chapitre 17, la prière de Jésus. La partie B et B prime, on a la venue du défenseur, chapitre 14, qui répond au chapitre 16, venue du défenseur. Et la partie centrale, la partie C, le cep et les sarments, chapitre 15. C'est à partir en fait de ce centre que nous avons commencé hier, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons commencé avec le chapitre 15. Et c'est à partir de ce centre que j'ai pu en déduire, en tout cas que j'ai déduit, l'enjeu de l'ensemble du discours qui va des chapitres 13 au chapitre 17. Et vous avez donc l'enjeu de ce discours. En l'absence de Jésus, comment les disciples allaient-ils continuer à rester fidèles à leur maître et porter du fruit jusqu'à son retour ? Il me semble que c'est l'enjeu de l'ensemble du discours de Jésus. L'ensemble donc de ce discours permet de formuler six propositions, et nous avons déjà étudié la première proposition hier. Restez connectés à Jésus. Le maître s'en va, le défenseur arrive. Comment tenir bon ? Comment rester fidèle à Jésus en restant connecté avec lui ? Nous aurons encore 5 autres exposés. Et le deuxième exposé, ce matin, avec Jean 13, les versets 36 au chapitre 14, versets 14 et 15. Donc, nous pouvons tourner le livret à la page 16 et 17. Et une dernière information avant de rentrer dans l'étude de ce texte. Vous avez vu qu'à chaque début, en tout cas, d'exposé sur le livret, il y a des indices de structure. Il y a ce que j'ai appelé des indices de structure. Formellement, en tout cas textuellement, nous essayons de donner des indices textuels pour qu'on puisse voir comment est-ce que le texte est construit, parce que la structure du texte est importante pour la compréhension de son sens. Nous lisons donc ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 13 à partir des versets 36 jusqu'au chapitre 14. Verset 14. Il y a donc une petite erreur dans le livret, c'est 14-14 au lieu de 14-15. Simon-Pierre, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui répondit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui répondit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. on ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père ?» Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi et qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous avons vu hier, dans le chapitre 15, qu'il était question de vie ou de mort. Jésus voulait simplement dire, « En mon absence, vous êtes mort si vous n'êtes pas attaché à moi. En mon absence, vous êtes mort si vous n'êtes pas attaché à moi. » Choisir Jésus, s'attacher à Jésus, le vrai cep, et demeurer en lui, c'est vivre. C'est en étant connecté à Jésus qu'on a la vie et qu'on puise l'énergie pour porter du fruit. Rester fidèle à sa parole, aimer comme Jésus, forme le fruit que nous portons en tant que chrétiens. Ce fruit que produit l'Esprit-Saint. Rester fidèle à sa parole et aimer comme Jésus. C'est le fruit, c'est un ensemble. C'est le fruit que portent ceux qui croient en Jésus et qui ont l'Esprit. S'attacher à Jésus pour prendre modèle sur lui, mais il y a un problème. S'attacher à Jésus pour prendre modèle, mais il y a un problème. Jésus s'en va, et nous l'avons vu hier. Et les disciples l'ont bien compris. Pierre, Thomas, Philippe posent au fond la même question. Où vas-tu ? Et nous verrons aussi un peu plus tard, Jude, en fait, pose aussi une question qui va dans cette même direction. Où vas-tu ? C'est dans la suite du texte. Mais donc, on se concentre simplement sur Pierre, Thomas et Philippe. Où vas-tu ? Donne-nous la destination finale. Laisse-nous un GPS. GPS. Nous-mêmes et nos contemporains, nous sommes dans une situation qui n'est pas si différente de celle de Pierre, de Thomas, de Philippe. Comment répondre à l'objection suivante ? Je ne crois que ce que je vois. Je ne crois que ce que je vois. Comment répondre à certains de nos amis non chrétiens qui estiment qu'il faut voir pour croire ? Il faut voir pour croire. Voilà d'emblée ce que nous allons découvrir dans le texte. En tout cas, c'est la thèse que je propose et je vais essayer de la défendre à partir du texte. Voici la thèse. Le passage converge vers l'idée que l'attachement à Jésus ne sera plus physique, mais puisque Jésus s'en va, Jésus n'est plus là physiquement, cet attachement sera désormais spirituel par la foi. L'attachement ne sera plus physique, on ne peut plus s'attacher physiquement à Jésus parce que Jésus s'en va, mais cet attachement est par la foi. Je vous propose donc trois étapes dans la lecture de ce texte, dans l'étude de ce texte, trois étapes qui vont nous guider vers cette affirmation. Ce que les disciples attendent, première partie. Ce que Jésus répond, deuxième partie. Et troisième partie, ce qu'il reste à faire. Jésus vient de dire au verset 33, donc ce sont les versets qui précèdent un petit peu, « Je suis encore avec vous un peu de temps, pour un peu de temps. » Verset 33, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. » Et Pierre a compris. Pierre a compris que Jésus s'en va bientôt. Et c'est pourquoi il lui demande « Où vas-tu ? Où vas-tu ? Je veux te suivre. Et là où tu iras, je suis prêt à donner ta vie. Je te suivrai. Laisse-moi juste te suivre, Jésus. » Mais réponse de Jésus, « Tu me suivras plus tard, mais avant, tu me renieras. » Regardons la réaction de Thomas. Pierre a raison. On ne sait pas où tu vas. Tu dis qu'il y a de la place dans la maison de ton père. Tu dois aller préparer une place pour nous. Tu reviens. Et on est censé connaître le chemin. On ne sait pas où habite le père. Comment on pourrait connaître le chemin? Allez, montre-nous le chemin, s'il te plaît. Regardons Philippe. Il réagit à l'affirmation de Jésus, verset 7. « Vous l'avez vu !» Ok, Jésus, tu ne veux pas nous dire où tu vas. On veut bien croire que c'est toi le chemin. Mais tu t'en vas. Alors, laisse-nous voir au moins une fois le Père. Laisse-nous voir au moins une fois le Père. Ça nous rassurera et ça nous suffira. Qu'est-ce que les disciples attendent au final de Jésus? Simplement, ils veulent rester connectés, rester avec Jésus. Ils veulent rester attachés à lui. Et les disciples ont passé 3 années avec Jésus. En tout cas, Jésus a passé 3 années avec les disciples. Et être disciple, ça veut concrètement dire suivre derrière et apprendre de lui. Suivre derrière et apprendre de lui. Et le mot disciple, en grec, vient du mot mathétès. Mathétès, c'est le disciple. Et ça vient du verbe grec mantano, mantano, et mantano qui va donner mathematica. Hein, Yvan, c'est ça, Yvan? Mathematica, les mathématiques. Donc, le disciple, c'est celui qui suit derrière et c'est celui qui apprend du maître. Les disciples ont suivi donc Jésus pendant 3 ans, là où il allait, et à la veille de son départ, c'était tout à fait normal qu'ils attendent de Jésus des recommandations concrètes, mais aussi que Jésus leur indique la prochaine destination, la prochaine étape du voyage. Jésus, on veut rester attaché à toi, tout comme les sarments sont attachés au cep, mais on a besoin d'indications claires. Montre-nous le chemin. Sinon, montre-nous le Père. On a besoin de voir. On pourra ainsi te rejoindre et rester avec toi. Voilà la demande des disciples. Qu'est-ce que Jésus va répondre au final? Et comme d'habitude, Jésus répond rarement aux attentes des disciples. Ou plutôt, Jésus sait que l'interrogation des disciples est sincère, mais il sait que là n'est pas la bonne ou la vraie question. Et humains comme nous sommes, les disciples ont besoin de voir pour croire. Jésus s'en va et il lui demande où il va. Et ce qui est tout à fait légitime. D'ailleurs, au chapitre 16, lorsque Jésus va dire que je m'en vais, et en gros, vous ne demandez plus où est-ce que je m'en vais, et Jésus est contrarié un petit peu, et un peu contrarié. Mais il leur répond, mais ils ne comprennent pas. Ils donnent une réponse, mais ils ne comprennent pas. Les disciples demandent à voir, ils demandent un chemin, ils demandent une destination. Mais Jésus demande aux disciples de croire. Les disciples demandent de voir, mais Jésus demande aux disciples de croire. Croire quoi ou croire qui? C'est ce que nous allons voir en reprenant les réponses de Jésus. Quel message ou quel enseignement Jésus révèle-t-il aux disciples ici? Je crois que tout réside dans l'explication du verset 1, le verset 1 du chapitre 14. Verset 1 du chapitre 14, relisons-le ensemble. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Verset 1, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Comment comprendre cette parole de Jésus? Comment comprendre cette parole? S'agit-il de croire en Dieu plus croire en Jésus? Une addition, croire en Dieu, mais aussi croire en Jésus. Ou n'aurait-on pas ici affaire à une explication? Une explication, croyez en Dieu, c'est-à-dire croyez en moi. Croire en Dieu, ça veut dire, c'est-à-dire croire en Jésus. Jésus n'est-il pas en train de révéler sa divinité? Jésus n'est-il pas en train de révéler qu'il est Dieu? Répondons à partir du dialogue avec Philippe, versets 6 et 10, 8 et 10, 8 à 10. Philippe lui dit, « montre-nous le Père. » Jésus lui répond, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Mais oui, et pour preuve, c'est le Père qui vit en moi et qui fait lui-même ses œuvres. » Jésus est en train simplement de répondre à Philippe, « Je suis uni à Dieu. Me voir, c'est voir le Père, parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous sommes Dieu ensemble. Nous sommes Dieu ensemble. Et donc, croire en Dieu, c'est croire en moi. Mais ça, tu ne peux pas le voir, tu ne peux que le croire. Tu ne peux pas le voir, mais tu ne peux que croire. Et Philippe, tu me déçois. Ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore. Je suis Dieu. » C'est la réponse de Jésus à Philippe. Et c'est au fond la même réponse que Philippe va donner que Jésus va donner à Thomas. Regardons la réponse de Jésus à Thomas. Thomas, c'est celui qui n'admet que sur des preuves évidentes. Thomas, c'est celui qui n'admet que sur des preuves évidentes. Il a besoin de voir pour croire. Il est par là même enclin au doute, au découragement, et il interrompt Jésus par cette déclaration qu'il ne connaît ni le chemin, ni le lieu où il va, et par conséquent donc par le chemin. Jésus lui répond, « Tu veux que je te montre le chemin ? Mais tu le connais déjà, Thomas. » Et Jésus ne va pas montrer de chemin à Philippe. Jésus ne va pas lui montrer le chemin qui conduit au Père. Si Jésus faisait cela, Jésus montrait un chemin, il établirait en fait un fossé entre lui et son disciple. En effet, Jésus n'est pas Bouddha. Jésus n'est pas Bouddha. Bouddha répétera cette prescription à ses disciples. Suivez la voie de la délivrance que je vous ai montrée. Suivez la voie de la délivrance que je vous ai montrée. Ce chemin, c'est la voie médiane avec ses quatre vérités sublimes. Il y a d'un côté, il faut rester à l'écart de la vie de la jouissance, c'est une des voies extrêmes. Et l'autre voie extrême, de l'autre côté, c'est celle qui consiste à ne pas se tracasser. Donc, la vie de la jouissance et ne pas se tracasser. Et entre deux, selon Bouddha, il y a la voie médiane. Aussi simple que ça, la voie médiane. À la place, Jésus va dire « Je suis le chemin, je suis la voie ». Le chemin ou la voie. Le grec donc, se traduit par la voie, mais le chemin, c'est la même chose. Je suis le chemin, je suis la voie. Et il est lui-même le médiateur vivant qui s'unit aux croyants. Jésus est lui-même le médiateur vivant qui va s'unir aux croyants. Souvenez-vous de la parole, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jésus est le médiateur vivant qui s'unit aux croyants et ainsi il conduit au but. Et le but, c'est la communion avec Dieu. C'est ce que la métaphore du cep et des sarments illustre. Relisons le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est cette réalité qui est exprimée ici. En étant uni à Jésus, le croyant est uni à Dieu. En étant uni à Jésus, le croyant est uni à Dieu. Et cela n'est possible que si Jésus est Dieu. Thomas, si tu me connaissais vraiment, tu saurais que je suis Dieu. La parole de Jésus s'oppose donc à toute prétention selon laquelle les religions conduisent à Dieu. Tous les chemins mènent à Rome, mais Jésus seul conduit à Dieu. On peut tirer un dernier indice du texte en faveur du fait que Jésus est Dieu. Et cet indice, c'est le dialogue entre Jésus et Pierre, donc qui précède le chapitre 14. Jésus prévoit le reniement futur de Pierre. Il est capable de voir par avance. Et cette omniscience de Jésus, cette connaissance de Jésus, me semble-t-il, montre encore une fois la divinité du Christ, la divinité de Jésus. Que ce soit envers Pierre ou envers Judas Iscariote qui va le trahir, Jésus connaît, Jésus sait. Et cela est une preuve de sa divinité. Il sait par avance les choses. Que reste-t-il à faire alors ? Que reste-t-il à faire ? Croire en Jésus pour voir. Croire en Jésus pour voir. On pourrait se dire, les disciples ont de la chance. Ils ont entendu, ils ont vu, ils ont touché Jésus. L'apôtre Jean affirme dans sa première épître, donc c'est un peu plus loin vers la fin de la Bible, dans sa première épître, l'apôtre Jean, celui qui écrit aussi l'évangile de Jean, « Ce que nous avons entendu, vu de nos yeux, touché de nos mains. » Donc grâce à ça, ils ne peuvent que croire. Il n'y a aucun doute possible. Pourtant, les disciples ont été aussi soumis à l'épreuve de la foi. Même en voyant Jésus, de leurs propres yeux, en voyant ces nombreux signes, ces nombreux miracles, ils ont dû faire en eux ce travail de réflexion. Est-ce que je crois que Jésus est Dieu ? La fin de l'évangile de Jean, mais aussi de l'évangile en général, les évangiles, montrent que leur foi était parfois douteuse. La foi des disciples a été parfois douteuse. Au moment de l'arrestation, ils sont tous enfuis. Le matin de la résurrection, ils courent vérifier au tombeau pour voir si Jésus est bien parti. Au moment de l'apparition de Jésus aux disciples, Thomas, le même Thomas, demande à voir les mains crucifiées de Jésus. Et après ces apparitions vers la fin de l'évangile de Jean, finalement, où sont partis les disciples ? Ils sont retournés à la pêche et on les voit au bord, à la pêche, et Jésus est sur le rivage, en train de préparer un barbecue. Pourtant, leur foi deviendra de plus en plus solide. Et à la fin de leur vie, de sa vie, en tout cas pour Jean, il écrit dans toujours son épître, cette épître de Jean, première épître de Jean, « Ce que nous avons entendu, vu de nos yeux, touché de nos mains, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous, que vous croyez. » Nous sommes dans la même situation que l'ensemble des chrétiens depuis 2000 ans. Jésus n'est plus ici, il siège à la droite de Dieu. Nous l'entendons, nous le touchons, nous le voyons par les yeux de la foi uniquement. Chaque fois que nous ouvrons sa parole et que son esprit nous éclaire. Chaque fois que nous méditons sa parole, nous l'étudions et que son esprit nous éclaire. Jésus nous dit, croyez en Dieu, c'est-à-dire croyez en moi. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Avec l'ensemble de mes collègues sires, mais aussi l'ensemble de ces personnes qui sont engagées à temps plein dans le ministère, au moment où nous avons décidé de nous engager dans le ministère chrétien à temps plein, Jésus n'était pas là à nos côtés. Au moment où, en tout cas pour ma part, au moment où j'ai décidé d'arrêter mon travail dans l'industrie automobile, Jésus n'était pas là à mes côtés et me chuchotait à l'oreille, « Vas-y, engage-toi. Engage-toi, vas-y. » C'est par la foi que nous avons abandonné, nous avons mis de côté notre travail dans le monde séculier pour nous engager dans ce ministère à temps plein. C'est par la foi en Jésus-Christ, en sa parole. C'est par la foi que nous avons décidé de renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. Et chaque chrétien est appelé à renoncer à lui-même et à placer sa foi en Christ. On n'aura pas tous un ministère à temps plein, mais à celui qui croit, la parole de Dieu dit, il fera aussi les œuvres que Jésus fait, et il en fera de même de plus grandes, parce que Jésus s'en va au Père. Comment est-il possible de faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus ? Ces œuvres plus grandes ne sont pas des résurrections corporelles, des guérisons miraculeuses ou des prodiges extravagants. Ces œuvres plus grandes sont les conversions. Les conversions, les œuvres faisant naître à la vie éternelle des hommes et des femmes en tout lieu. Le maître s'en va. nous vivons en l'absence corporelle de Jésus, le Maître nous demande de croire en lui. Il revient bientôt. Thomas a vu et a cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Désormais, l'attachement à Jésus ne sera plus physique, mais cet attachement sera par la foi. L'apologétique de Jésus est au final assez simple. L'apologétique de Jésus est au final assez simple. À ceux qui veulent croire pour croire, voir pour croire, pardon, Jésus répond, croyez en moi. À ceux qui veulent voir pour croire, Jésus répond, croyez en moi. Sa réponse est à la fois ferme, mais aussi invite son interlocuteur à réfléchir. Peut-être devrions-nous nous en inspirer pour notre défense de la foi. Le Maître s'en va, comment tenir bon? Croire par la foi que Jésus est Dieu. Prions ensemble. Tu connais combien notre foi est faible et tu veux nous rassurer. C'est toi qui es le chemin parce que tu es la vérité et la vie. Aide-nous à croire en toi. Et lorsque nous doutons, que ta parole et ton esprit affermissent notre foi. Merci aussi parce que tu nous as donné l'Église. Tu as établi l'Église, ces chrétiens, ces croyants qui sont notre famille, visibles ici. Seigneur, notre attachement à toi n'est pas physique parce que tu es à la droite de ton Père, mais tu nous as laissé l'Esprit Saint et ta parole. Par ta parole et par ton esprit, nous pouvons saisir par la foi que tu es vivant et que tu es là. Seigneur, chaque fois que nous doutons que nous sommes dans la détresse ou dans le doute, que tu viennes nous fortifier par la lecture de ta parole et que ton esprit travaille en nous pour nous conduire chaque jour de notre vie plus en plus vers toi, Seigneur. Que nous puissions avancer ensemble, frères et sœurs dans la foi, vers toi, mais aussi dans le témoignage que nous voulons rendre à ce monde que tu as aimé, mais que nous voulons aussi aimer. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Question de Héloïse, c'est ça. C'est concernant le verset 12. Comment est-ce que j'arrive à la conclusion, c'est ça, que les œuvres plus grandes correspondent aux conversions, c'est-à-dire aux œuvres faisant naître à la vie éternelle les hommes et les femmes en tout lieu, tel que je l'ai défini. Le professeur Jacques Buchold, à la faculté de Vaux-sur-Seine, a écrit un article donc, dans une revue qui s'appelle Théologie, la revue de théologie évangélique. Donc, c'est la revue de la faculté de Vaux. Donc, il fait une dizaine de pages sur ce verset en particulier. Et donc, j'ai repris un petit peu de lui. Et simplement, pour résumer grosso modo ce que Jacques Buchold propose dans ses œuvres plus grandes, il propose de rattacher les œuvres plus grandes aux œuvres dont il est question dans l'évangile de Jean. Et si ma mémoire est bonne, il y a simplement deux passages où il est question des œuvres plus grandes. Et il me semble que c'est le chapitre 5 et c'est ici. Et donc à partir de cette relation donc, qu'il établit avec le chapitre 5, les œuvres plus grandes, Jacques Buchold va rattacher ses œuvres plus grandes à l'œuvre en fait, de Dieu. Parce que finalement, les œuvres plus grandes qui correspondent en fait, aux œuvres de Dieu et qui se rattachent en fait, progressivement, et si on comprend bien en fait, les œuvres plus grandes vers l'œuvre de Dieu c'est de nous sauver, en fait, hein. Ouais, de sauver les hommes et les femmes. Donc de cette conclusion, et je réponds à ce que tu viens de dire, lorsque le chrétien il s'attache à Jésus, il me semble que, donc en tout cas, le texte dit clairement, nous allons produire des œuvres plus grandes. Et ces œuvres qui sont plus grandes, donc ce que j'avais répondu dans le message, il ne s'agit pas des résurrections, des miracles, mais ce sont des conversions, ouais, des conversions qui durent dans l'éternité. Donc peut-être que nous-mêmes, nous sommes déjà ces œuvres plus grandes parce que nous avons entendu l'Évangile et nous sommes tournés vers Jésus. Mais lorsque nous allons aussi proclamer l'Évangile au monde, Le Seigneur a préparé des cœurs, et ces cœurs, en tout cas ces personnes, viendront à Jésus et se tourneront vers Jésus pour l'éternité. Voilà. Donc pour l'article, donc théologie évangélique, voilà, cet article est en ligne. Ouais. Jean 14, verset 12.